Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Ta parole dit que tu cherches de vrais adorateurs qui t'adoreront en esprit et en vérité. Je veux t'adorer.
La lecture qui nous intéresse maintenant se trouve dans le deuxième livre des Rois au chapitre 6. Et à partir du verset premier, en voici la lecture. Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous te prendrons là chacun une poutre, et nous nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, « Consent à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau, et il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté !» L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ? » Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, « Enlève-le. » Et il avança la main et le prit. Dans la vie de ce jeune homme inconnu que nous rencontrons ici, il y a plusieurs points qui valent la peine d'être vus, parce qu'ils peuvent avoir leur contrepartie dans la vie de plusieurs d'entre nous ce matin. D'abord, nous le trouvons ici industrieux et enthousiaste. Il est plein de zèle et d'enthousiasme débordant pour son Seigneur. Tout ce que nous trouvons en lui au début est hautement recommandable. D'abord, vous remarquerez qu'il est en excellente compagnie, la meilleure qui soit. Il est en compagnie de jeunes gens qui, comme lui, veulent être prophètes et qui veulent faire la volonté de Dieu. Donc, en excellente compagnie. Deuxièmement, vous remarquerez aussi qu'il est engagé avec eux dans un excellent projet, le meilleur qui soit. La place où il se tenait était devenue trop exiguë. Ils envisageaient l'expansion de l'œuvre. Ils n'étaient pas de ceux qui se contentent de ce qui est acquis, qui se contentent d'être juste sauvés. Non, il avait l'âme d'un pionnier, il voyait grand, il voyait juste, il avait la vision exacte de l'œuvre de Dieu. Pour lui, ne pas avancer, c'était reculer. Aussi, il décida de marcher de l'avant. Il ne se plaisait pas dans l'ornière, il voulait en sortir. Et comme c'est un jeune homme pratique, et qu'il n'est pas un tir au flanc, il prend sa part du fardeau, sa part de responsabilité, et avec les autres, il descend joyeusement dans la vallée du Jourdain. Donc, une excellente compagnie, un excellent projet, et en plus, il est dominé par un excellent principe. Souvenez-vous que chacun était responsable d'abattre son arbre qui devait être façonné en une poutre pour la nouvelle construction. Le jeune homme scruta ici et là pour trouver un arbre qui pût convenir, mais il n'en trouva aucun qui lui parut répondre aux conditions qu'il voulait. Il était de ceux qui, pour leur Dieu, veulent le meilleur du meilleur. Il ne pouvait se contenter du moindre. Rien en dessous de la perfection ne pouvait le satisfaire. Enfin, il en trouva un arbre qui répondait à son goût de perfection, mais il poussait en un endroit difficilement accessible, tout au bord de la rivière. Mais ce jeune homme était prêt à faire l'impossible pour avoir ce qu'il y avait de meilleur. Voici le portrait de ce jeune homme, noble, industrieux, enthousiaste, plein de vision et d'audace pour le travail de son Dieu. Excellente compagnie, excellent projet, excellent principe. C'est son portrait. Mes amis, est-ce là votre portrait? Est-ce le portrait de chacun de nous ce matin? Quelle chose bénie si chacun pouvait réellement dire « Oui, ça, c'est mon portrait ». Mais peut-être que quelques-uns devront dire « C'était mon portrait ». Ah, je me souviens des premières années de ma conversion, et comme je vous l'ai dit l'autre jour, les réunions n'étaient jamais trop nombreuses ni trop longues. Quand on faisait des distributions de traités ou des invitations pour des réunions spéciales, j'étais toujours le premier pour tout. Je parlais de l'Évangile à tout le monde, je distribuais des traités d'évangélisation dans l'autobus. Si je prenais un autostoppeur dans ma voiture, il n'en descendait pas sans que je l'aie entretenu du salut de son âme. J'étais toujours prêt à louer le Seigneur et à rendre grâce au culte. Ça, c'est ce que j'ai été. Seulement, et ce n'est plus mon portrait aujourd'hui. La deuxième chose que j'apprends dans le cas de ce jeune homme, c'est que sa tâche fut interrompue. Un contretemps est survenu. Il était acharné au travail, il abattait son arbre avec ardeur quand, tout à coup, la cognée se déboîte, se démanche, décrit un arc de cercle et fait le plongeon dans la rivière toute proche. Voilà notre jeune homme, surpris, hébété, ne sachant plus que faire. Son travail était interrompu, forcément. Il ne lui a pas fallu grande imagination pour comprendre qu'il ne pouvait pas continuer son travail. Il avait peut-être une solide paire de bras, il avait peut-être entre les mains un excellent manche, mais il est impossible d'abattre un arbre avec un manche et de l'huile de bras. Si vous voulez abattre un arbre, il faut la cogner. Au nom du Seigneur, puis-je me permettre de vous poser humblement une question? Cette scène ne dépeint-elle pas quelqu'un au milieu de nous? Quelqu'un qui a perdu sa cognée spirituelle, qui a perdu le tranchant, j'y reviendrai, le tranchant de sa vie chrétienne. Travaillez-vous avec un manche seulement? Une chose est certaine, c'est que vous ne pourrez jamais abattre un arbre avec un manche dépourvu de sa cognée. La chose la plus triste chez nous, les chrétiens, c'est que lorsque nous avons perdu la cognée, nous continuons à travailler avec le manche seul, et nous n'arrivons qu'à endommager l'arbre que nous nous sommes proposés d'abattre. Nous le blessons, nous l'endommageons, mais nous ne l'abattons pas. Plus nous tapons, plus nous le blessons, et le meurtrissons par un travail fait avec un manche dépourvu de cognée. Je rencontre parfois dans les contacts de mon ministère d'évangélistes itinérants des gens qui n'ont pas été proprement coupés. On leur a tout simplement tapé dessus et ils en sont tout meurtris. C'est que, pour bien faire l'œuvre de Dieu, il ne suffit pas d'une forte personnalité, d'une belle éloquence, et même de dire des choses vraies, orthodoxes. Tout ça, ce n'est qu'un pauvre manche, et un manche tout seul n'abattra jamais un arbre, à moins que nous n'ayons le glorieux tranchant de l'Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un est dans cet état ce matin? Si c'est le cas, je sais exactement ce que vous ressentez. Intérieurement, vous êtes déçu. Oh, l'anxiété qui peut se trouver dans votre cœur. Bien sûr, personne ne sait ce qui se passe. Mais quel tumulte, quelle angoisse, parce que dans la sphère de service que le Seigneur vous a confiée, vous n'arrivez à rien. Peut-être avez-vous aussi découvert que cet état était un terrain fertile pour faire germer et grandir des péchés qui ont nom de jalousie et d'envie. Voyez-vous, quand on est déçu de son travail pour Jésus, voici ce qui arrive. On regarde à celui qui est en face. Il est très occupé, lui, à abattre son arbre, et le Seigneur le bénit. Alors on le regarde avec des yeux charnels, et on devient jaloux. Alors on fait ce que beaucoup de nous ont fait, on dit « Ah oui, mais c'est que mon arbre à moi, c'est un arbre très dur !» Mais dans la tâche qui consiste à prendre des hommes et des femmes et en faire des poutres spirituelles dans la maison de Dieu, on se dit que les âmes sont désespérément dures. Ah, si seulement je travaillais en un autre endroit, ça irait mieux qu'ici. Ah, si je pouvais travailler chez ces gens d'un peu plus loin, ce serait plus facile. Les arbres de ma vallée du Rhône sont beaucoup plus durs que ceux de la région parisienne. Trop souvent nous accusons les arbres, mais bien sûr que les arbres sont durs. Et ceux qui sont à l'orée du bois sont réputés être les plus durs. Bien sûr que si vous travaillez au salut des âmes, les âmes sont dures à convertir. Bien sûr que si vous travaillez à l'édification des croyants, les croyants sont durs à comprendre ce que vous enseignez. Si on crée ou conduit une chorale, si on anime une rencontre avec la Bible ou une cellule de prière, si on enseigne les petits dans l'école du dimanche où les jeunes cœurs sont d'un naturel plus tendre, c'est quand même dur. Si l'on fait des visites aux malades ou aux prisonniers des établissements pénitentiaires, comme le fait mon ami Gérard Payan, bien sûr que c'est dur. Je saisis ici l'occasion de vous recommander son livre, récemment sorti de presse, « Dieu à l'ombre ». Mais la difficulté ne réside pas seulement dans le fait que les arbres soient durs, mais surtout dans le fait que nous avons perdu la cognée. Nous, chrétiens évangéliques, avec notre connaissance exacte de la troisième personne de la Trinité, nous devrions moins parler de la dureté des âmes que d'avouer que nous avons perdu la cognée du Saint-Esprit. La troisième chose que j'apprends de ce jeune homme, c'est qu'il s'écrie « Il était emprunté ». Voyez comment il clame son désespoir au verset 5. Il s'écria « Ah, mon Seigneur, il était emprunté ». Il n'a pas haussé les épaules en grommelant « Tant pis !» ou « Ce n'est pas de ma faute !» ou en accusant les autres d'avoir mal emmanché la hache. Non, l'idée qu'il domine, c'est qu'il va devoir la rendre et qu'on va lui demander des explications. Or, il le sait, il n'a aucune excuse valable à présenter, car il devait prendre soin de l'outil et s'assurer de son bon état. C'est exactement la position du chrétien devant Dieu. Les dons de l'esprit, les ministères et les charges que nous exerçons, en un mot, le service particulier auquel nous avons été appelés ne nous appartient pas en propre. Le propriétaire, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui les distribue en particulier à chacun selon sa volonté, nous dit 1 Corinthiens 12, verset 11. Et un jour, il faudra rendre ce qui nous a été prêté pour un temps. Un jour, nous allons, comme l'économe infidèle de la parabole, nous allons nous entendre dire « Rends compte de ton administration ». Un jour, il nous faudra tous passer au tribunal de Christ pour rendre compte de notre travail et de la façon dont nous l'avons fait. Et nous savons d'après 1 Corinthiens que les choses volumineuses comme le bois, le foin, le chaume ne seront que du tape à l'œil. De même, ce n'est pas le tape à l'oreille ou le crève-tympan qui comptera en ce jour-là. La jauge décibel n'aura pas cours au tribunal de Dieu. Il ne nous redemandera pas le bruit que nous aurons fait, mais le fruit que nous aurons porté. Il faudra aussi rendre l'outil en entier. Et cela, le jeune homme le savait. Il savait aussi que la trop commune et commode excuse « je ne l'ai pas fait exprès » ne serait pas reçue. Ne voulons-nous pas apprendre de ce jeune homme? Ou bien, est-ce que l'éloignement de l'échéance nous fait oublier le sérieux de la chose? Avons-nous oublié que le grand jour s'est approché et que les jugements de Dieu, comme le dit l'apôtre Pierre, vont commencer par sa maison? Première épître de Pierre, chapitre 4. Quoi? Il ne nous reste qu'un bout de bois entre les mains? Un ministère défiguré? Un service tronqué? Un résultat nul et nous faisons bonne figure, comme si le Seigneur allait nous décerner des éloges, mais qu'à cette confiance déplacée qui n'est qu'une aberrante inconscience, succède le réveil à la réalité et le cri angoissé de ce serviteur conséquent « Ah, mon Seigneur, il était emprunté !» Quatrièmement, un grand sujet de joie et un grand soulagement d'esprit, c'est de savoir qu'un plus grand qu'Élisée est ici parmi nous ce matin, et il est capable de rendre à quiconque le veut la cognée ou la puissance perdue. Vous pouvez, avant de quitter ce lieu, rentrer en possession de ce que vous avez perdu. Et il y a deux côtés à cette restauration. Il y a d'abord le côté humain. Il y a certaines choses que je dois faire pour retrouver la cognée si je l'ai perdue. Lisez le récit. Tout d'abord, il a reconnu franchement la perte de l'objet. Bien sûr, dans ce cas, il ne pouvait pas faire autrement. C'était tellement évident. Il a dû confesser et en reconnaître la perte. Ce n'est peut-être pas aussi évident quand vous et moi, nous avons perdu notre cognée spirituelle. Tout au moins, le pensons-nous. Mes chers amis, les autres nous voient mieux que nous ne nous voyons nous-mêmes, et ils verront bien vite ce qui a pris la place du Saint-Esprit dans nos vies. Ils verront vite si les armes charnelles ou l'énergie humaine ont pris la place de la puissance spirituelle. Alors, êtes-vous prêt à reconnaître que vous avez perdu la puissance ou le dynamisme que vous aviez? Ça, c'était la première chose, le côté humain. La deuxième chose qu'il fit, c'est celle-ci. Il s'adressa à Élisée, l'homme de Dieu. Il ne s'est pas tenu à une sorte de statu quo. Il n'a pas non plus, comme on dit, jeté le manche après la cognée. Il est allé plus loin, et il vous faut faire comme lui. Et vous adressez au Seigneur. Non pas seulement reconnaître que vous avez perdu la cognée, mais venir à l'Élysée de Dieu, au Seigneur Jésus-Christ, et lui dire sincèrement, « Seigneur, j'ai perdu ma puissance, mon tranchant, j'ai perdu la cognée, je le confesse. Voulez-vous le faire et le faire maintenant ?» En troisième lieu, il faudra répondre à une question directe et profonde. J'ai dû faire face à cette question, et je dois dire qu'elle fait mal, même très mal. Et je vous la dis aujourd'hui, car je crois qu'elle est la question de Dieu pour chacun de nous dans cette rencontre. Et la voici. Où est-elle tombée? Où est-elle tombée? Vous répondrez peut-être avec une pointe de mauvaise humeur, quel non-sens! Je ne me rappelle pas, je ne sais pas où je l'ai perdue. La seule chose que je sais, c'est que je ne l'ai plus. Un instant, Minute papillon. Si vous examinez votre vie et votre cœur dans la présence de Dieu, si vous acceptez sincèrement d'être guidé par le Saint-Esprit, il vous conduira sûrement à l'endroit, à la personne, au moment ou à l'épisode de votre vie où vous avez attristé le Saint-Esprit de Dieu, où vous vous êtes raidi contre lui et où le résultat fut la perte de la cognée. Je ne sais pas s'il y a des amis catholiques avec nous ce matin. Vous rappelez-vous des vœux qu'on vous a fait prononcer lors de votre première communion solennelle? Et voici le vœu. Je renonce à Satan, à ses pompes et à ses œuvres, et je m'attache à Jésus-Christ pour toujours. Magnifique formule que celle-là. Mais qu'en est-il aujourd'hui de ce « je renonce à Satan, à ses pompes et à ses œuvres, et je m'attache à Jésus-Christ pour toujours » Où s'est passé tout ça? C'est peut-être là que c'est tombé, tout de suite après avoir prononcé ses vœux, car pour beaucoup, il faut l'admettre, la première communion a été la dernière, ou peu s'en faut. Ou bien était-ce lors de cette amitié avec quelqu'un qui n'était pas de la maison de la foi? Ou bien une alliance contre la volonté de Dieu? Vous vous rappelez de ce jour où vous étiez face à face avec la parole de Dieu qui disait clairement « Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les infidèles » et vous avez répondu « Je n'y vois aucun mal ». Peut-être, mais n'est-ce pas là justement que le fer est tombé? Vous y êtes allé de votre propre volonté? Contre l'avis de la parole de Dieu, vous vous êtes auto-persuadé que c'était bien? Mais n'est-ce pas là que l'outil s'est démanché? Où était-ce quand vous avez commencé à fréquenter les lieux d'amusement mondains? Et vous vous trouvez maintenant tellement enlisé qu'ils ont le meilleur de votre vie? De votre énergie, de votre temps, même de votre argent? Ou était-ce une habitude coupable que vous avez laissée entrer dans votre vie? Bien sûr, vous avez fermé la porte sur vous pour que personne ne voit, et personne ne vous a vu. Mais comme c'est étrange, c'est dès ce moment-là que la joie et la puissance sont parties. Je n'oublierai pas de sitôt ce couple de jeunes chrétiens venus me demander pourquoi ça n'allait plus, non pas tellement dans leur couple, mais dans leur vie chrétienne avec le Seigneur. Ils affirmaient être nés de nouveau, mais ils avaient perdu tout goût pour le rassemblement, pour la lecture de la Bible et la prière. J'ai essayé de voir avec eux ce qui pouvait faire obstacle à la bénédiction divine, mais c'était en vain. Tout semblait bien en place. Pendant je ne sais pas combien de temps, ils m'ont littéralement fait tourner en bourrique. Tout à coup, je leur ai sorti une question de derrière les fagots, une question dont je m'étonne encore aujourd'hui d'avoir osé la poser. Est-ce que par hasard, vous ne vous adonnez pas à la pornographie? Pan! En plein dans le mille! Je ne vous raconte pas la suite, mais j'avais mis le doigt à indiquer l'endroit où la cognée était tombée. Non, la souillure de la chair et des pensées ne font pas bon ménage avec une vie de sainteté. Ou bien, est-ce que c'est l'amour immodéré du confort, des possessions, ou quelque amertume, quelque jalousie, quelque critique contre les chrétiens, quelque compromis de conscience, quelque mauvais sentiment, quelque transaction commerciale douteuse, ou simplement de la négligence envers la prière et la lecture de la parole, ou l'habitude de lire à la sauvette l'horoscope dont nous avons parlé l'autre jour. Est-ce cela qui vous a fait perdre la cognée spirituelle? Alors la question se pose aujourd'hui, et c'est la Bible qui vous la pose, c'est Dieu qui vous la pose. Où est-elle tombée? Il faut conduire Jésus-Christ à l'endroit où c'est tombé et où il pourra vous la rendre. Ça, ce que je viens de dire, c'était le côté humain. Maintenant, voyons le côté divin. On voit Élisée couper un morceau de bois et le jeter à l'eau. Si on compare la densité entre ces deux éléments que sont le fer et l'eau, cela donne un rapport à peu près de 1 à 7. C'est-à-dire qu'aucune loi de physique ne pouvait extraire la cognée du fleuve. De plus, les eaux du Jourdain sont limoneuses, paraît-il, à cet endroit, et cela rendait toute localisation et toute recherche impossible, c'est-à-dire qu'humainement parlant, la perte était irrémédiable. Il en est de même de nos pertes spirituelles. Pour les récupérer, il faut un miracle. Il faut une énergie surnaturelle qui défie les lois de la nature pour que le fer surnage. Et pour accomplir ce prodige, Dieu va non pas se servir de sa science, mais il va faire intervenir ce que la Bible appelle sa folie. C'est ce que nous dit l'Épître aux Corinthiens. Une folie qui est plus sage et plus forte que les hommes. Il ne va pas mettre des moyens mécaniques en œuvre. Dieu ne va pas faire la suction par le vide et faire remonter l'objet par aspiration puissante. Il ne va pas construire une digue et mettre le fleuve à sec. Il va prendre un bout de bois, rien que cela. Un bout de bois qui forcera l'admiration des uns et le mépris des autres. Il le jettera à la place où le fer est tombé et le miracle se fera. Et cela veut dire que là même où nous avons tout perdu, où nous avons sombré, Jésus est venu et y a jeté son bois à lui. C'est là un langage qui nous est familier et que je rappellerai sous trois expressions. Le bois de sa croix, le gibet de Golgotha, les poutres du calvaire. Jésus est venu et il a mis sa personne et son œuvre dans la faillite humaine, dans les échecs de l'Église, de son Église. Et ce qui était perdu sans espoir de salut a refait surface. Non seulement de pauvres âmes perdues, non seulement des pécheurs corrompus, mais des vies chrétiennes qui ont sombré dans la forfaiture, des vocations abandonnées ou perdues, des premiers amours abandonnés, des appels et des ministères qui ont sombré dans la léthargie, peuvent refaire surface et repartir comme si rien ne s'était passé, hormis bien sûr le temps perdu. Il y a un de nos chants qui dit « Amis, croyons au pouvoir invisible que le Sauveur a caché dans sa croix. Saisissons-la comme une arme invincible pour triompher au nom du Roi des Rois. » Cela est dit dans un de nos beaux cantiques. « Ouvrez les yeux et voyez. Ce que vous avez perdu fait surface, là, au pied de la croix du Seigneur Jésus, au pied de celui qui a fait dire à l'apôtre Jean, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Il reste maintenant une dernière chose à faire. Et le verset 7 que je lis dit « Enlève-le. » Il avança la main et le prit. La dernière chose à faire, c'est d'avancer la main de la foi et prendre ce que Dieu remet à portée de main. La foi a été appelée la main du cœur qui saisit les promesses de Dieu. Et c'est ce dernier geste qui va compter. Mais certains qui sont arrivés là, qui ont confessé leur faute, leur erreur, leur négligence et leur péché, ne font pas le dernier geste. Ils n'osent pas croire que Dieu non seulement leur pardonne tout, mais leur rend tout. Savez-vous que j'ai dû apprendre que Dieu aime à pardonner, qu'il y trouve son plaisir? Je savais qu'il pardonnait, mais j'avais encore à apprendre que Dieu aimait à pardonner et à restaurer. Regardez l'histoire de Jonas qui engloutit son ministère de prophète dans la mer et qui tombe à l'eau avec lui. L'auriez-vous, vous, sorti des entrailles du cachalot et des fonds marins? L'auriez-vous ramené à la surface, vous? Bien sûr que non, mais Dieu lui l'a fait. Et il lui a rendu son ministère en le renvoyant une deuxième fois à Ninive. Et Pierre? Pierre qui a si lâchement renié trois fois son maître, lui auriez-vous rendu votre confiance? Bien sûr que non, mais Jésus l'a fait. À son triple reniement, il a répondu par une triple restauration. Paix mes brebis, paix mes agneaux, paix mes brebis. Et le Dieu qui s'est penché sur le cas, ma foi, bénin de ce jeune homme, et qui a été jusqu'à suspendre les lois de la pesanteur pour lui rendre un bout de ferraille tombé dans l'eau, et la lui mettre à portée de main, ce Dieu-là n'en fera-t-il pas autant et même plus pour ceux qui, en fin de compte, ont perdu beaucoup plus qu'un bout de fer usiné? Et si Dieu l'a fait pour lui, il le fera aussi pour vous. Alors, à vous d'avancer la main et de saisir par la foi ce que Jésus a fait et de reprendre les possessions perdues qu'il remet maintenant, à cet instant, à cette minute, j'allais dire à cette seconde, qu'il remet à votre portée. Il a tout fait. Il ne reste plus que tendre la main de la foi et reprendre ce que Dieu vous redonne, et de le faire maintenant. Alors nous nous inclinons dans la prière, quelques secondes de silence, et c'est vous qui maintenant, dans ce silence, vous lui parlez intérieurement, en seul à seul avec Dieu, en lui disant, dites-lui simplement, « Seigneur, j'en ai perdu des choses, et j'en ai perdu des années. » Comme cet ami qui s'est effondré dans les larmes pour toutes ces années qu'il avait perdues. Nous nous inclinons. Dites-lui ce que vous avez à cœur de lui dire. Dites-lui simplement, Seigneur, j'en ai perdu des choses. Je ne peux pas le dire publiquement, mais c'est là que je l'ai perdu. Je me souviens de l'occasion, de ces occasions. Dites-lui, Seigneur, je te demande pardon. Je crois que, à la croix du calvaire, Seigneur, tu as tout payé et tu as tout récupéré. Seigneur, je sais ces choses, mais je n'ai jamais avancé la main pour le reprendre. Alors aujourd'hui, c'est décidé. Seigneur, je prends ce que tu me redonnes. Et je repars, comme on dit aujourd'hui, Seigneur, je repars à zéro avec toi. Seigneur, redonne-moi ton Saint-Esprit. Redonne-moi, Seigneur, cette onction d'autrefois. Et Seigneur, j'irai avec toi jusqu'au bout. Merci, Seigneur. Seigneur Dieu, tu as entendu ces prières secrètes dites de cette façon ou d'une autre. Seigneur, qu'aujourd'hui, pour plusieurs, plusieurs ce matin. Tout change. Que plus rien ne soit jamais le même à partir d'aujourd'hui. Continue à parler. Nos voix s'arrêtent forcément. Mais toi, tu continues à parler. Il reste l'après-midi, la soirée, des heures qui viennent. Seigneur, révèle-toi au cœur, aujourd'hui. Maintenant, et de tout notre cœur, nous déposons cette prière devant toi, une prière de foi et de confiance en toi. Merci Seigneur. Amen. Amen.